15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous. Tous les jours, de 15h à 16h, nous répondons à vos interrogations en matière de santé et de bien-être, je dis nous, parce qu'il est là dans ce studio, il vient de poser sa mallette de docteur et sort de consultation à l'instant pour nous sur Europe 1, le docteur Dimi Mohamed. Bonjour Dimi.
Bonjour Mélanie.
Vous allez bien?
Très bien et vous?
Vous avez un peu mal à la gorge aujourd'hui, j'ai l'impression.
Mais ça va un peu mieux.
Ah, ça va un peu mieux, bon tant mieux, je vous soigne bien. Allez, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à l'otoplastie, l'opération esthétique au niveau des oreilles qui consiste le plus souvent à les recoller. Alors avec notre invité, le docteur Bertrand Matteoli, chirurgien plastique esthétique, on va vous dire tout sur cette intervention le plus souvent réalisé chez l'enfant. Le docteur Dimi Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'un problème assez méconnu, mais qui peut déjà concerner certaines personnes en ce moment, celles qui sont passées aux décos de Noël à la maison, le syndrome du sapin. Je vous en dis pas plus pour le moment. Alors ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, on va parler de la salpingite. Alors là, attention, rien à voir avec le sapin, salpingite, sapin, non, rien à voir. Il s'agit d'une inflammation des trompes de Fallope chez la femme, due à une bactérie, on fera le point tout à l'heure. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. Il sera question des sextos, pourquoi certains raffolent en envoyer à leur partenaire et d'autres sont plutôt mal à l'aise d'en recevoir. Elle nous dira tout.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle d'Amélie.
Bonjour Mélanie et docteur Mohamed. Voilà, j'ai une petite question. Ma fille a une grosse tache blanche sur une dent devant. Elle a beau se brosser les dents et insister, mais ça ne part vraiment pas. À votre avis, ça pourrait être dû à quoi? Est-ce que je dois aller voir un médecin? Merci beaucoup. Au revoir.
Bon alors Dimi, les taches blanches sur les dents, ça peut être parfois aussi gênant d'ailleurs que d'avoir des problèmes de dents jaunes, mais je crois qu'il peut y avoir plusieurs explications pour ces taches blanches. Hein.
Oui, on en a souvent parlé, l'accumulation de taches blanches, ça peut être tout simplement lié à un brossage de dents insuffisant. Et du coup, on a la plaque dentaire qui s'accumule. Alors, il faut rappeler aux gens qu'on se brosse les dents minimum 2 fois par jour et 2 minutes avant, on disait après chaque repas. On est revenu à des recommandations un peu plus faisables.
Donc, 2 fois par jour. Quoi d'autre, Dimi? Je crois que ça peut être aussi le signe d'un autre problème qui s'appelle la fluorose. Expliquez-nous ce que c'est.
Exactement, c'est lié à un apport excessif de fluor. Et là, le brossage des dents n'aura plus aucun impact.
Non.
Ça touche principalement les enfants qui ont entre 1 et 4 ans. C'est l'âge critique qu'on peut la développer. C'est lié au fait que le fluor est bénéfique pour protéger l'émail, mais quand il est présent en trop grande quantité, il entraîne cette fluorose avec ses dépôts blanchâtres au niveau des dents qu'on ne peut pas enlever. Et c'est lié au fait que le fluor, on en a dans le dentifrice, mais aussi parfois dans certaines eaux ou certains sels. Par conséquent, il faut être très prudent sur les apports en fluor, notamment chez les enfants et les femmes enceintes.
Ok, Dimi. Alors c'est vrai qu'avant, les bébés, nous, quand on était petits d'ailleurs, Dimi, j'imagine que vous comme moi, on nous donnait des compléments de fluor.
Exactement.
Mais ça, on a arrêté effectivement à cause de ce risque. Alors il y a une dernière cause, je crois, qui peut expliquer la survenue des taches blanches au niveau des dents. Donc ce serait un problème au niveau de l'émail ou même les caries d'ailleurs, je crois.
Oui, exactement. Le fait d'avoir des caries, ça commence pas toujours par la carie noire grisâtre, ça commence par des petites taches blanches. Première alerte, on va chez le dentiste. Mais aussi, on peut avoir une perturbation de la formation de l'émail. On appelle ça l'hypoplasie de l'émail. L'émail est de moins bonne qualité, donc plus vulnérable aux caries. Il y a des facteurs de risque. C'est 1, le tabac prénatal, les antibiotiques,
notamment. La maman enceinte qui fume, hein, c'est ça.
Exactement, la maman enceinte qui fume. Dès une famille d'antibiotiques qu'on appelle les tétracyclines, qui entraînent un blanchiment justement au niveau des dents avec cette hypoplasie. Et puis la prématurité. Donc pour ça, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut aller voir le dentiste. D'autant plus que le traitement, il est assez
compliqué. Par exemple, de la fluorose, qui est le cas quand même le plus fréquent des taches blanches, la fluorose chez le bébé.
Ça part
chez l'enfant, on peut rien faire quasiment.
Il faudra éventuellement, si c'est une déminération, faire un blanchiment dentaire ou plus tard des facettes. Donc ça se traite
chez l'enfant.
Voilà, mais pas de drame, pas de catastrophe. Il faudra juste un peu patienter.
Donc très bien, merci beaucoup Dimi. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Maxime, 39 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. J'avais une question un tout petit peu délicate à propos de la diarrhée. Qu'est-ce qu'il faut boire, qu'est-ce qu'il faut manger quand cela nous arrive? Je connais les vertus du riz, j'ai entendu parler des carottes. Est-ce que c'est compatible? Et ben, je vous remercie pour vos lumières et pour votre aide en cette période un petit peu délicate.
Alors Dimi, des gastro, j'imagine que vous en voyez beaucoup
en ce
moment.
Énormément,
hein, voilà.
Énormément
alors ça, donc vous allez nous donner tous vos bons conseils, ce que vous donnez à vos patients tous les matins en consultation. Vous conseillez quoi? Alors qu'est-ce qu'on mange? Carottes, riz, autre chose?
Alors, dans un premier temps, je vois souvent des patients me dire je suis déshydraté. J'aimerais rappeler aux gens que la déshydratation touche principalement 2 types de personnes. Soit les enfants, puisque finalement les apports en eau dépendent du parent qui va pouvoir
vous parler de ça, je bois comme par hasard.
Exactement. Et puis les personnes dont la sensation de soif peut être altérée, les personnes âgées. Vous et moi, Mélanie, on sera très peu déshydratés. En revanche, quelques signes peuvent vous aider. 1, le fait de plus pisser. Si vous ne pissez plus, ou très peu, ou que l'urine est très concentrée, c'est un signe de déshydratation. Donc il faut augmenter vos apports en eau. Si vous avez soif, la soif est un très mauvais signe, parce que ça veut dire que c'est déjà déjà trop tard.
Ah oui.
Une langue un peu sèche, c'est des principaux signes qu'il faut retenir. Attention chez l'enfant, un enfant qui est cerné, donc qui a des cernes alors qu'il a bien dormi, c'est une perte de poids
de 5%. Avec les yeux un peu enfoncés, hein, c'est
exactement,
ça
c'est 5% de perte de poids. Et par pitié, les parents, ne faites pas ce pli cutané.
Souvent, ah, j'allais vous dire, c'est super ça, hein, Jimmy, on fait ça.
Non. C'est une déshydratation sévère, au-delà de 10%, auquel cas l'enfant est très mal et les parents ne savent pas
reconnaître. Oui, pincer la peau, on dit que si elle reste un peu en l'air, c'est que c'est déshydraté, c'est que là, il est déjà très grave.
Un stage très avancé, donc on évite de toucher, on regarde les cernes, c'est 5% de perte de poids.
Donc, ok, ça c'est pour boire, mais qu'est-ce qu'on mange alors? Du riz et des carottes?
Riz, banane, carotte, ça marche très bien. Banane riche en potassium, les carottes cuites, ça marche très très bien.
Ah bon?
La purée de carottes chez les enfants, c'est formidable. L'hydratation, c'est le maître mot. Quand on vomit énormément, il faut un peu d'apport en sucre, car l'eau seule fait vomir. On évite les sodas qui sont de très mauvaises solutions de réhydratation. On va à la pharmacie chez les bébés pour prendre les solutions de réhydratation qu'on met dans 200 ml d'eau. Il y a de l'eau, du sel, du sucre. Et en règle générale, au bout de quelques jours, tout rentre dans l'ordre.
En 2-3 jours, la gastro, c'est un vieux souvenir, c'est ça?
Exactement.
Merci beaucoup, Jimmy.
À la prochaine.
Allez, bon, si vous aussi, comme Maxime, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il joue au Père Noël, je crois. Il va nous parler du symptôme un peu mystérieux, comme ça, le syndrome du sapin. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le docteur Bertrand Matteoli, avec qui on va faire le point sur l'autoplastie, l'opération pour réparer les oreilles décollées. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé-Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes le docteur Matteoli, avec qui on va parler de l'intervention pour réparer les oreilles décollées, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, je devrais vous présenter en faisant « Ho ho ho, c'est bientôt Noël !» Et qui dit Noël dit que vous allez nous parler d'un truc rigolo. Enfin, je ne sais pas si c'est rigolo, mais ça s'appelle le syndrome du sapin de Noël. Ça existe vraiment, ça? C'est une allergie au sapin, c'est ça?
Alors, c'est pas vraiment une allergie au sapin, c'est quelque chose sur lequel on aurait une allergie. Et en l'occurrence, c'est lié au pollen qu'on a dans l'écorce de l'arbre ou surtout les moisissures qui ont été retrouvées dans les épines et dans le tronc. C'est dans une revue qui a été publiée il y a quelques années, mais pas si longtemps que ça. C'est l'Annal of Allergy, où ils ont pris 23 échantillons d'écorce et d'aiguilles de sapin dans lesquels les chercheurs ont trouvé près de 53 moisissures différentes, toutes potentielles déclencheuses de crise d'allergie.
Et parce que la moisissure, c'est souvent pourvoyeur d'allergie, c'est vrai.
D'autant plus que la moisissure, lorsqu'elle est en plein air, ça ne pose pas de problème. Mais une fois qu'on la met chez nous,
avec
l'humidité, avec le chauffage, c'est un milieu propice pour coloniser l'arbre de Noël et vous entraîner tous les symptômes respiratoire.
Alors quand on a ce syndrome du sapin de Noël, c'est quoi les symptômes? C'est comme le rhume de foie?
Exactement, c'est le nez qui coule, on tousse, ça gratte dans la gorge, on ne comprend pas, on n'est pas malade, on n'a pas de température et puis ça persiste dans le temps. Ça, c'est pas très embêtant, mais ce qui est plus dangereux, c'est notamment chez les enfants qui font de l'asthme.
Mais moi j'avais ça chaque année quand j'étais petite, je comprends mieux.
Exactement.
Dès qu'on sortait les décorations du sapin de Noël, je croyais que c'était les décorations d'ailleurs parce qu'il y avait de la poussière dessus.
Et
c'est
ben...
possible ça? Ça pourrait pas justement être autre chose que le sapin
et
finalement.
Exactement, parce que on a dit
que les vieilles guirlandes qu'on a laissées à la cave pendant un an.
Oui, tu sais que vous aimez bien les boules sur le sapin, mais on peut avoir donc les moisissures, on en a parlé, mais il peut aussi avoir les produits de conservation mis sur le sapin et puis la neige artificielle qu'on peut vaporer.
Ça fait mal à la gorge.
Et donc tout cela, c'est pourvoyeur de crises d'asthme et d'allergie en cette période où normalement il y en a très peu.
Alors quelles mesures prendre? On ne jette pas le sapin quand même, j'espère.
Alors dans un monde parfait, si vous avez un enfant asthmatique ou avec un terrain allergique sévère, il faudrait éviter les sapins naturels. Alors c'est parfois compliqué parce que le sapin synthétique, c'est un peu moins sympa.
En revanche,
ce qu'on peut conseiller, c'est d'essayer au moins de le laver en extérieur avec de l'eau, de le faire sécher aussi en extérieur.
On ne va pas laver mon sapin avant, hein, mais bon.
Et oui, mais bon,
il faut avoir en extérieur en plus.
Mais si vous avez un enfant qui fait des crises d'asthme, un asthme qui est incontrôlé, qu'on a du mal à traiter, mieux vaut faire cette petite mesure et au moins vous savez pourquoi votre enfant est malade. Bon, ça ira mieux l'année prochaine.
Il a le syndrome du sapin, mais ça n'empêche pas d'avoir des cadeaux après quand le Père Noël passe.
Exactement.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils de saison cette fois. Allez, à présent, on accueille notre invité pour le dossier du jour consacré à l'autoplastie, l'opération des oreilles décollées. C'est le docteur Bertrand Matteoli, chirurgien plastique esthétique à Paris.
15h, 16h.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Matteoli.
Bonjour.
Alors cette opération, l'autoplastie, d'abord un petit tour d'histoire on va dire, c'est une opération qui est récente ou quelque chose qu'on fait depuis très longtemps?
Bon, on fait ça, ça a commencé à la fin du siècle, enfin du
siècle
19e
précédent.
Siècle, donc c'est à la fin des 1890 à peu
oui,
près,
c'est
donc
vieux.
C'est assez vieux. Oui. Ça a commencé, c'est un médecin qui a commencé par faire une oreille. Il avait, parce qu'à partir du moment où l'anesthésie générale est rentrée est devenue à peu près commune, il s'est lancé, il a fait une oreille, puis comme ça s'est bien passé, la semaine d'après, il a fait l'autre oreille décollée chez un enfant. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à se mettre en place. Et puis maintenant, c'est vraiment une opération très, très commune. Oui.
De routine, oui. Jimmy ?
Et qui est demandeur de ces opérations ? C'est plutôt des enfants ou vous avez aussi des adultes ?
Il y a à peu près tout peut se voir, mais en règle générale, ce sont les enfants qui demandent. à partir de 7-8 ans.
Là, ce qui va déclencher... C'est le gros de votre patientèle, hein, quand même.
Oui, c'est 7-8-10 ans, à peu près. C'est à peu près plus de la moitié des patients. Et ça vient par... Il faut que ça vienne d'une demande de l'enfant. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui rentre un jour de l'école, qui en pleure parce qu'on s'est moqué de lui, parce qu'il avait les oreilles décollées, ou à la piscine, parce que souvent la petite fille, elle mettait les cheveux devant les oreilles, mais à la piscine, elle les a mis derrière, et là, on s'est moqué d'elle. Elle rentre en pleurant, en disant à sa maman, « Maman, on s'est moqué de moi, on m'a traité de Dumbo ou de... »
Moi, j'ai vu ça, je sais exactement de quoi vous parlez à 10 ans, après la danse classique, en rentrant avec le chignon, on s'est tellement moqué de moi que j'ai demandé, et je me suis fait opérer à 10 ans, donc je connais très bien.
Très bien, mais par contre, je pense qu'il faut que la demande vraiment vienne de l'enfant, et pas tellement des parents. Si ce sont les parents qui demandent, ça peut culpabiliser l'enfant. L'enfant va se trouver, il va se dire, tiens, j'ai quelque chose qui n'est pas normal.
C'est horrible, un parent qui vous oblige à aller vous faire opérer.
Oui, mais ça arrive. Dans ces cas-là, je parle à l'enfant, je lui dis, est-ce que toi, ça te gêne vraiment? Si l'enfant dit non, bah, j'ai plutôt tendance à dire, écoutez, pour l'instant, on ne fait rien, puis on verra plus tard si vraiment ça le gêne.
Et vous avez plus de petits garçons, petites filles? Parce que des fois, on se dit que les filles ont les oreilles un peu masquées par les cheveux, ou finalement, c'est exactement pareil, le ratio?
Le ratio est à peu près pareil. Les garçons le supportent peut-être un peu mieux. C'est plus de ce côté-là. C'est vraiment personnel. C'est vraiment la manière dont l'enfant réagit.
Il y a des gens qui vivent très bien avec des oreilles décollées,
sûr,
d'ailleurs.
Oui,
c'est pas une obligation de faire une autoplastie.
C'est pas une pathologie. On n'a pas de problème particulier avec ça. On vit normalement.
Oh, absolument. Oui, oui. Non, c'est simplement un problème esthétique. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose que dans toute la chirurgie esthétique. La demande, c'est une demande de normalité. C'est-à-dire que l'enfant se trouve pas anormal, mais différent des autres enfants de sa classe ou des enfants de sa famille, et il a envie de régler ce problème et de devenir normal et qu'on passe à autre chose et qu'on parle plus de ça.
Docteur Matteoli, on n'en a pas terminé, évidemment, bien sûr, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc dans le cabinet du chirurgien plasticien. Que se passe-t-il lors de la première consultation en vue d'une autoplastie? Vous verrez que c'est une intervention qu'il vaut mieux subir en hiver plutôt. On vous expliquera pourquoi, on vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est le docteur Bertrand Matteoli, chirurgien plastique esthétique à Paris. Alors docteur, avant de rentrer dans les détails de cette première consultation pour une éventuelle autoplastie, pour se faire recoller donc les oreilles, on revient un petit peu à la base physiologique, on va dire. Pourquoi on a les oreilles décollées? Qu'est-ce qui se passe dans les... Pourquoi tout d'un coup, il y a un enfant qui naît avec les oreilles décollées, un autre non? Il y a quoi comme malformation? Alors, peut-être
d'abord, c'est quelque chose qui est très fréquent, puisque ça atteint à peu près 5% de la population, donc c'est fréquent. C'est souvent congénital, c'est familial.
Hein, et donc il y a un côté héréditaire.
C'est un côté héréditaire, ça apparaît dès la naissance, mais on ne s'en aperçoit pas forcément à la naissance. On peut s'en apercevoir vers l'âge de 2-3 ans. Et les oreilles décollées, c'est dû essentiellement à deux choses. Alors c'est assez difficile de décrire l'oreille à la radio, mais c'est soit il y a un défaut de ce qu'on appelle un défaut de plicature de l'antélix. L'antélix, c'est le cartilage qui est sur le bord libre de l'oreille, c'est-à-dire le côté qui bouge de l'oreille. Et ce cartilage, il peut être plus ou moins plié. Et quand il est pas bien plié, ça va décoller l'oreille. La deuxième possibilité, c'est la conque. La conque, c'est la base de l'oreille. Ça ressemble à un cartilage, c'est pour ça qu'on appelle ça la conque.
Donc la base à l'arrière de l'oreille.
La base à l'arrière, ce qui est collé au crâne. Et cette conque, elle peut être plus ou moins importante. Et dans ces cas-là, donc, ça fait ce qu'on appelle une conchomégalie. Et c'est ce qui va donner les oreilles décollées. Et souvent, les deux sont liés, plus ou moins.
D'accord.
Et du côté unilatéral ou des deux côtés. Et parfois, c'est un seul côté qui est décollé. Parfois, c'est deux côtés. Et à chaque fois, ce n'est pas forcément pour la même raison. Et
d'accord,
c'est ça qu'il faut analyser quand quand on voit l'enfant pour la première fois.
Et donc, c'est forcément quelque chose qu'on a dès la naissance ou ça peut se décoller secondairement?
Non, ça ne se décolle pas secondairement. Mais avec la croissance de l'oreille, on va s'en apercevoir plus ou moins tôt.
Et oui, c'est ça, parce qu'ils naissent les bébés avec des toutes petites oreilles, toutes mignonnes. Et puis quand l'oreille grandit, c'est là qu'on voit la feuille de chou. J'en avais deux, hein, donc je sais de quoi je parle, qui apparaît. Sans plaisanter, là, pour le coup, moi, je sais que ma maman, quand j'étais bébé, elle me mettait un bandeau, toute petite, en croyant que le pédiatre lui avait dit que ça allait peut-être potentiellement me recoller les oreilles pour dormir. Bon, ça ne l'a pas fait, mais est-ce que ça pourrait marcher éventuellement?
Non, ça ne marchera pas.
Ça ne sert à rien.
Y a qu'une chose qui marche, malheureusement. Ou heureusement pour nous, c'est l'intervention chirurgicale. La prévention, ça ne sert pas à,
bon,
ça sert
donc
à rien.
Le scotch, les bandeaux pour dormir sur les bébés, ça ne sert à rien. Jimmy,
et c'est toujours symétrique? On a les deux oreilles atteintes? On peut avoir une oreille simplement?
C'est rarement symétrique. C'est unilatéral ou des deux côtés. Et parfois, d'un côté, c'est un problème de plicature. du cartilage. De l'autre côté, ça va être la conque, c'est-à-dire la base de l'oreille qui est trop développée. Et ça peut être lié. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire le diagnostic précisément, parce que l'intervention ne sera pas forcément la même sur les deux oreilles.
Du coup, vous opérez pas toujours les deux, d'ailleurs. Vous opérez parfois qu'une oreille.
Ah bah, ça m'est arrivé il y a une semaine d'opérer une petite fille de 7 ans. Elle avait qu'une oreille décollée, j'ai opéré qu'une oreille.
Et à la première consultation, donc vous regardez tout ça, ce que vous venez d'expliquer, d'où vient le défaut, c'est ça, l'enfant arrive.
Oui, absolument, puis je lui explique, c'est-à-dire que je lui montre ce qui se passe, et puis après on va expliquer, bien sûr, d'abord on commence par voir s'il y a des antécédents, des problèmes médicaux dont il faut tenir compte ou pas, et puis après je lui explique son problème et la manière dont on va le traiter.
Jimmy ?
C'est quelque chose qui leur fait peur aux enfants, parce que quand on parle de chirurgie, ça veut dire anesthésie, ça veut dire piqûre, ça veut dire dormir à l'hôpital, ou finalement ils acceptent facilement ?
Oh, ils acceptent facilement, parce que maintenant d'abord on n'y a plus besoin de dormir à l'hôpital, parce qu'on fait pratiquement tout en ambulatoire, donc l'enfant rentre le matin, sort le soir, puis on lui explique qu'on va lui faire une toute petite piqûre, et puis après on va l'endormir doucement, et qu'il va se réveiller dans une salle de réveil exprès, où on va s'occuper de lui, puis qu'il aura un gros pansement sur la tête.
Petit détail technique, c'est une opération qu'il faut faire plutôt en hiver, pourquoi ?
C'est plus agréable de faire ça en hiver, parce que d'abord, porter un bonnet au début, c'est plus agréable. Ensuite, il ne pourra pas se mettre au soleil pendant un mois, il ne pourra pas aller nager, soit dans la mer, soit dans une piscine.
Puis
donc,
pour des
c'est
raisons
plus agréable.
Pratiques,
L'idéal, c'est de faire ça en début de vacances scolaires.
Très bien. Docteur Matteoli, on va poursuivre cet entretien. Dans quelques minutes, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on va passer au bloc opératoire. Que fait précisément le chirurgien pour recoller les oreilles ? Combien de temps dure cette intervention ? Et quelles sont les suites opératoires, les précautions à prendre éventuellement dans les semaines qui suivent ? On va tout vous expliquer. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Bertrand Matteoli, chirurgien plastique esthétique à Paris. Alors docteur Matteoli, on passe à l'intervention en elle-même à présent. Alors j'imagine que c'est un geste qui se fait évidemment sous anesthésie, locale ou générale, je ne sais pas.
Mais ça va dépendre de l'âge, puis ça va dépendre de comment l'enfant est développé et comment il appréhende la chose. Chez un enfant, c'est beaucoup plus agréable pour lui et pour le chirurgien de le faire sous anesthésie générale. À partir de 14, 15 ans, 16 ans, on peut le faire sous ce qu'on appelle neuroleptanalgésie, analgésie, c'est-à-dire qu'on le shoot un petit peu, on lui donne
une voie intraveineuse,
il le met un peu dans les vapes, et puis on fait une anesthésie locale complémentaire. Et chez un adulte, on peut tout à fait faire ça sous anesthésie locale. Le seul désagrément chez l'adulte, c'est qu'il va entendre les crissements quand on travaille un peu le cartilage.
Tout
c'est
se
pas
passe
très
à
agréable.
Côté de l'oreille, donc
mais
il
ça
entend
fait pas mal du
découpe,
tout sous anesthésie locale.
D'accord.
Parce que justement, comment ça se passe l'opération concrètement ? Qu'est-ce que vous faites ?
Eh bien concrètement, alors une fois qu'on a installé, qu'on a bien badigeonné, pris toutes les mesures d'asepsie en bloc opératoire, mais on commence par faire une petite incision cutanée en quartier d'orange derrière l'oreille, juste dans le sillon de l'oreille. À partir de ce moment-là, on va décoller la peau, on va fragiliser le cartilage que j'appelais tout à l'heure l'entélique, c'est-à-dire ce cartilage qui est mobile au niveau de l'oreille, avec soit un bistouri, soit avec une râpe spéciale. Et puis, quand on va faire de la place derrière l'oreille pour pouvoir rentrer la conque, généralement en enlevant un muscle qui s'appelle le muscle auriculaire postérieur, qui servait à bouger les oreilles chez nos ancêtres,
chez les éléphants,
chez certaines
aujourd'hui.
Personnes encore, chez les chevaux par exemple, ou des choses comme ça. Vous voyez, on va pour faire de la place. Et puis après, une fois qu'on a plicaturé ce cartilage, on va fixer cette plicature en mettant des points de suture, soit avec un fil résorbable, soit un fil non résorbable.
Combien de points en général ?
En règle générale, sur l'entélique, c'est-à-dire sur le bord libre du cartilage, on met 3 points.
Bon, ça va, c'est pas beaucoup.
Et après, on va aussi fixer la conque, c'est-à-dire la place qu'on a fait pour pouvoir rentrer l'oreille au niveau de la base du crâne, là on va mettre 2 points de suture. Et puis après on fait ce qu'on appelle un surjet intradermique, c'est-à-dire qu'on fait passer un fil sous la peau d'un côté à l'autre de l'incision. Ça, à partir de ce moment-là, l'intervention est terminée, ça dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes par oreille.
C'est très rapide.
Et puis, c'est rapide, quand on sait faire, ça va assez vite. Et après, ce qui est très important, c'est qu'on va faire un pansement modelant, c'est-à-dire qu'on va mettre, généralement, on met du tulle gras ou une crème un peu grasse avec une compresse pour bien fixer le travail qu'on a fait. Et puis après, on met un gros bandeau autour de la tête, style un œuf de Pâques.
Comme quand on fait un peu un moulage, quoi, c'est ça ? On met l'oreille dans un pansement
On fait en sorte que l'oreille ne va pas bouger
qu'elle reste
sous
en place.
Pansement.
Ouais,
qu'elle va
parce qu'un mauvais pansement pourrait détruire le travail.
Absolument. C'est pour ça qu'il est très important que ce soit le chirurgien lui-même, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais tout le temps, c'est moi-même qui fais le pansement, et je fais très, très attention au pansement. Après, une fois que l'intervention est terminée, l'enfant reste, si c'est une anesthésie générale, il va rester à peu près une heure en salle de réveil, puis il remonte dans sa chambre. 5-6 heures après, sa maman ou son papa peut le récupérer.
Et il a mal l'enfant quand il se réveille ? Est-ce qu'il est douloureux ou comme finalement ça
Maintenant, c'est plus. On a fait tel progrès dans l'anesthésie que de toute façon, il a une perfusion, donc on lui passait des drogues. C'est pas une intervention qui est très douloureuse, c'est une intervention, si vous voulez, où après l'enfant, il va avoir l'impression d'avoir des oreilles cartonnées. qui sont pas à lui. Enfin, s'il la touche, il va trouver un truc, enfin une sensation bizarre.
Je confirme, mais on sent plus ses oreilles pendant quelques temps.
Oui, c'est
après,
pas franchement douloureux, c'est pas agréable comme intervention, mais c'est pas, franchement pas douloureux.
Et après l'intervention, donc vous dites qu'il rentre chez lui facilement, donc on se réveille facilement. Mais est-ce qu'il peut y avoir quand même des complications sur cette intervention après, je veux dire.
Alors les choses à laquelle il faut faire attention, c'est pour ça qu'on va le garder d'abord en salle de réveil, puis à la clinique ou à l'hôpital pendant 5-6 heures, c'est l'hématome, c'est-à-dire un petit saignement qui, s'il devenait important, c'est pas grave, mais il faut revenir en salle d'opération, faire sauter 3 points et coaguler le petit vaisseau qui saigne. Ensuite, la chose à laquelle il faut faire attention, et c'est pour ça qu'il faut le faire dans des conditions de propreté et en salle d'opération dans un milieu le plus stérile possible, c'est que le cartilage qu'on va façonner pour le reausculter, il est très fragile et il est très sensible à l'infection.
Mais c'est
une chondrite, c'est-à-dire une infection du cartilage, c'est exceptionnel. Parce qu'on fait, d'abord, on fait systématiquement un flash antibiotique avant l'intervention et puis on fait attention à ce qu'on fait.
Mais il faut que derrière, les parents fassent bien les soins post-opératoires.
Oui, mais les soins sont très faciles. C'est-à-dire que le lendemain, on enlève le gros pansement et à ce moment-là, il faut mettre un petit bandeau, style les bandeaux qu'on met quand on va faire du ski ou des choses de ce genre, pour modeler l'oreille. Et l'enfant va le garder pendant à peu près un mois, jour et nuit.
Ça sert à quoi ce pansement? Garder le résultat aussi.
C'est pour éviter d'une part que, par exemple, en dormant, il puisse se retourner. Puisque à ce moment, pendant le temps de cicatrisation du cartilage, l'oreille est fragile. Donc il ne faut surtout pas qu'elle reçoive d'une part de choc et d'autre part qu'elle puisse se retourner sans le faire exprès en dormant, ou que l'enfant mette ses cheveux. C'est une petite fille qui a des longs cheveux, qui va mettre ses cheveux sur le bord supérieur de l'oreille. Il faut faire attention qu'elle ne le fasse pas parce que ça pourrait fragiliser le travail qu'on a fait.
Bien sûr. Et
du coup, le port de ce bandeau, c'est le temps de la cicatrisation ou ça cicatrise un peu plus vite que ça?
Non, la cicatrisation cutanée, elle est rapide, mais ça sert à ce que le cartilage se remette reste en bonne position. Ça sert aussi à ce que les autres enfants fassent attention.
Eh oui, bien sûr.
Et puis que l'enfant se souvienne aussi qu'il a été opéré des oreilles, donc qu'il fasse attention.
C'est un peu un grand panneau, attention, j'ai été opéré, quoi, voilà, c'est absolument. Ça aussi. Plus que vraiment, c'est une utilité médicale. Il y a d'autres précautions à avoir encore pendant quelques semaines. Donc l'enfant porte le bandeau, est-ce qu'il peut reprendre le sport, aller à l'école? Vous dites on fait ça pendant les vacances scolaires.
Généralement, au début des vacances scolaires, c'est bien parce que pendant une semaine ou 10 jours, il ne va pas aller à l'école, donc il ne va pas recevoir de cours. Le sport, il faut éviter d'en faire. En tout cas, la piscine pendant à peu près 3 semaines, un mois. Mmh. Et ce qu'il faut éviter, bien sûr, c'est le soleil. C'est pour ça que c'est mieux de faire ça l'hiver, pendant à peu près un mois, pas prendre de soleil sur les oreilles. Et puis c'est à peu près tout. Quoi.
Et après, il reprend sa vie.
Oui, absolument. Oui.
La satisfaction, elle est souvent au rendez-vous, j'imagine.
La satisfaction est toujours au rendez-vous à partir du moment où l'enfant, ce qu'il veut, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, c'est être normal. C'est-à-dire ne plus être marginalisé par ses petits camarades de classe.
Et ça coûte combien cette intervention? Alors,
c'est une intervention qui est prise en charge par la Sécurité sociale parce qu'on considère qu'à partir du moment où il y a un retentissement psychologique, ce qui est le cas parce que sinon il n'y a pas de raison de se faire opérer, l'intervention peut être prise en charge. Après, il y a des dépassements d'honoraires qui sont variables en fonction des médecins. Mais avec une bonne mutuelle, c'est une intervention qui est prise en charge ou systématiquement ou à l'hôpital qui est prise en charge.
Et en moyenne, ça coûte
Voilà. Après, les dépassements d'honoraires, ça va 1 000 à 1 500 euros à peu près.
Mais on arrive à se faire prendre en charge. Parce que vous envoyez une photo en gros à la Sécurité sociale et on voit bien qu'il y avait une vraie raison d'opérer. Quoi, en fait, c'est ça.
Non, il n'y a pas besoin d'envoyer de photo. Il y a simplement, s'il y a un contrôle de la Sécurité sociale qui nous demande à nous médecins de pouvoir justifier que l'intervention était licite, à ce moment-là, il faut qu'on ait une pièce photographique qui prouve que l'oreille était décollée avant.
En tout cas, il ne faut pas hésiter, effectivement, si les parents se posent la question, c'est une intervention très utile pour les enfants.
C'est vraiment une intervention qui donne 100% de satisfaction.
Merci beaucoup, docteur Matteoli, d'être venu sur notre plateau, tout nous expliquer sur cette intervention des oreilles décollées, l'autoplastie. Merci encore.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les maux du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à la salpingite, une inflammation des trompes de Fallope chez la femme, due à une bactérie. On fera le point sur le diagnostic et bien sûr sur le traitement de ce problème. On en parle juste après. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les maux du quotidien. Et aujourd'hui, on parle de la salpingite. Savez-vous ce qu'est précisément cette inflammation des trompes de Fallope chez la femme? Alors à quoi c'est dû et comment ça pourrait bien soigner? Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
La salpingite.
Je verrais bien ça au niveau du ventre. Je pense à appendicite.
Je connais personne qui s'appelle pingite, mais
ça sonne comme un nom de MST un petit peu.
Là pour le coup je vois pas du tout ce que c'est. Salpingite, Je sais pas. Je sais pas, je dirais la vessie, j'en sais rien. La prostate ?
C'est quelque chose, une maladie microbienne ou... J'ai aucune idée de quelle partie du corps peut être concernée par la salpingite. Salpingite, je pense que c'est soit pour l'homme, soit pour la femme.
Une sorte de mycose qui s'est développée dans les trompes.
Ah donc c'est chez la femme alors ? Ou les musiciens ?
Donc ce serait suite à des rapports sexuels.
La maladie ou le risque chez certaines femmes de perdre justement des trompes ?
Ça peut peut-être obliger à retirer une trompe, à avoir une intervention chirurgicale.
Peut-être par le biais des ovules médicamenteuses, soigner cette problématique.
Après, si c'est une infection, je dirais qu'en toute logique, ça doit certainement se soigner avec des antibiotiques.
Alors Jimmy, bon, est-ce qu'il y a de l'idée ? Il y a pas mal de bêtises hein, quand
même.
Ouais, c'est ça, dire c'est une histoire de trompe, c'est ou les femmes ou les musiciens. Donc, là, ouais, non, c'est que les femmes, on est d'accord. Jimmy, on va reprendre quand même d'un point de vue physiologique, donc les trompes de Fallope. Oui. C'est uniquement chez les femmes déjà.
Exactement.
Et une femme donc, qui souffre d'une salpingite, ça se passe à cet endroit-là hein, concrètement, mais c'est quoi ?
Alors, c'est une infection génitale haute. L'infection des trompes de Fallope, c'est ce qui relie l'ovaire de l'utérus et ce qui permet, lorsque l'ovocyte est expulsé, de migrer tranquillement jusqu'à l'utérus pour être fécondé par un spermatozoïde. Et c'est une infection qui est bactérienne. Elle passe inaperçue dans près de 70% des cas, puisqu'elle est post-symptomatique. C'est-à-dire que les femmes ont très peu de symptômes ou des symptômes atypiques pour lequel on a un retard de diagnostic. Et bien souvent, on s'en rend compte au décours d'un bilan de stérilité.
Oui.
15 000 femmes chaque année ont une stérilité d'origine tubaire liée à cette salpingite. Et cette infection, elle est liée dans 50% des cas à des femmes de moins de 25 ans.
Ah oui, quand même. Donc, chez des femmes très jeunes. Mais alors, attendez, comment une femme, elle peut attraper ça ? J'imagine que ça se passe par voie sexuelle quand même.
Exactement. C'est lié à une infection sexuellement transmissible. Dans 70% des cas, c'est lié au chlamydia trachomatis, le chlamydia classique, qui donne très peu de symptômes. Dans les autres cas, on a le gonocoque, mais dans ces cas-là, on a des symptômes bien plus bruyants. Et puis, il y a certains entérobactéries qui peuvent donner ces symptômes. Donc, c'est une infection sexuellement transmissible qui passe souvent inaperçue. Et puis, parfois, il y a des gestes chirurgicaux, notamment une interruption
ovarienne
est plus rare, mais l'IVG peut donner une salpingite. Les examens d'hystéroscopie, d'hystérographie aussi, lorsqu'on pose un stérilet. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est une infection sexuellement transmissible.
Et alors, vous avez dit qu'elle passait souvent inaperçue. Du coup, est-ce qu'il peut y avoir quand même des signes qui peuvent faire penser à ça ?
Oui, ça commence souvent par des douleurs abdominales, des douleurs pelviennes un peu basses, des pertes, des leucorrhées un peu jaunâtres, nauséabondes, une température qui va de 38,5 voire jusqu'à 40 dans les infections un peu plus sévères. Et puis, parfois, des signes urinaires. La femme brûle, ça brûle quand elle fait pipi. Elle a des démangeaisons, parfois un peu de sang, des métrorragies. Mais un cortège de symptômes très bizarres et surtout avec un retard de prise en charge. Et surtout, on a parfois des femmes qui guérissent spontanément.
Ah bon ?
C'est-à-dire que les femmes n'ont plus de température et on s'en rend compte par la suite avec le bilan de stérilité. Ou parfois, il y a deux complications, des douleurs abdominales chroniques ou un risque de grossesse extra-utérine. Si vous faites des salpingites non traitées ou même traitées, on peut avoir ça.
Et alors très rapidement, parce qu'on a peu de temps, ça se soigne la salpingite, comme on va rassurer les femmes.
Ça se soigne.
C'est une bactérie, donc antibiotique, j'imagine.
Oui, large spectre, qui diffuse bien dans les trompes. 15 jours à 3 semaines, parfois on est obligé de passer par la cœlioscopie, c'est-à-dire l'intervention chirurgicale, pour faire le bilan, confirmer le diagnostic. Et parfois, attention, même lorsqu'on traite avec les antibiotiques, on ne retrouve pas forcément des trompes en très bonne santé. Donc c'est une infection qu'il faut prévenir. Un, on met des préservatifs et deux, on se fait dépister son ou sa partenaire régulièrement. Ça permet d'éviter de tomber malade.
Et rapidement, on traite aussi le partenaire hein, quand c'est une IST, justement.
Exactement, parce que le chlamydia, on l'attrape de son partenaire.
Et on
donc
peut avoir une
on
récidive.
Dépiste et on le retraite.
Très bien, merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, c'est la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question des sextos. Pourquoi certains raffolent en envoyer à leur partenaire et d'autres sont plutôt mal à l'aise d'en recevoir. Elle nous dira tout. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui débarque à l'instant même dans ce studio. Bonjour Catherine, comment allez-vous ?
Je vais très bien, je vous remercie.
Alors je rappelle que vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Et donc aujourd'hui, vous allez répondre à une question de Nadia. Nadia qui a 30 ans, je vous la lis. Mon copain a pris l'habitude de m'envoyer ses sextos ou des photos de son pénis. Cela me gêne un peu, surtout quand je suis au travail. Lui me dit que cela fait partie de la sexualité dans un couple. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, c'est quoi le but d'envoyer ce genre de textos, de SMS coquins ? C'est pas que ça me soit complètement étranger, mais si quand même, ça provoque quoi en nous ? Pourquoi on fait ça, tout simplement ?
Bon, c'est d'abord pour mettre tout d'un coup au milieu de quelque chose qui n'a pas lieu d'être sexuel, tout d'un coup du sexuel, ressolliciter la partie érotique de soi pour recréer du lien.
C'est comme un préliminaire un peu ?
Oui, exactement. C'est une façon de se... On le fait aujourd'hui parce que les moyens modernes permettent l'envoi de photos, mais sinon on le faisait déjà en s'envoyant des mots doux ou en autre époque, en posant une mouche à un endroit ou une autre, ou un autre qui voulait dire, qui portait un message érotique, un message sexuel. Donc ça a toujours existé. Aujourd'hui, la forme est simplement une forme un peu plus brusque et un peu plus dénuée de tout imaginaire.
Jimmy, posez votre téléphone et répondez, posez la question que vous vouliez poser.
Il y a peut-être aussi une nuance entre envoyer un sexto et une photo de son zizi. Il y a peut-être... Là, Nadia semble... C'est Nadia, oui. Elle semble... Catherine... Non, oui, Nadia. Elle semble
non, c'est
un peu
pas moi. Nadia
semble un peu gênée par la photo du sexe de son amie, mais peut-être qu'elle serait un peu moins gênée par
des
un simple texto. Ouais. Des mots doux, non ?
C'est ça. Alors, c'est pour ça que la forme a changé et elle est du coup assez dénuée de toute possibilité d'imaginaire. Or, l'imaginaire de voir ce pénis en, vrai, en chair et en os. Enfin, il n'y a pas d'os. Mais en tout cas, il y a quelque chose autour de cette façon de fonctionner qui ne marche que dans la mesure où ça participe de l'érotisation de l'autre. Sinon, en effet, c'est une brusquerie. Parce que autant derrière des mots, derrière un soupir, derrière « je vais te faire ça » ou « je vais te faire ça », l'autre va l'imaginer et ça va amener une fertilité d'imaginaire érotique. Autant un pénis, ça n'est très érotique que dans la mesure où elle aime cette idée. Et pour ça, il faut connaître évidemment sa partenaire. Et si elle est au milieu d'une réunion, si elle est en train, alors ça peut être très drôle, et puis elle s'empourpre et elle est gênée, et elle, pourquoi pas, ou alors au contraire, elle est agressée. Et c'est cela toute la difficulté, c'est que quand on envoie quelque chose à quelqu'un, que ce soit un mot, que ce soit une photo, on l'envoie avec une intention et un état d'esprit dans lequel on est soi.
Il ne faut pas se tromper de destinataire aussi.
Il ne faut pas se tromper de destinataire. Et puis, on ne sait pas où en est le destinataire. Et d'ailleurs, souvent, il y a des histoires qui sont assez fake. Puisque vous avez, par exemple, quelqu'un qui va envoyer une photo, l'autre qui n'est absolument pas disponible mais qui va répondre un truc qui est censé être une réponse érotique. Alors
mais même pas réfléchi,
pas, voilà,
rien du tout.
Et puis qui n'est pas dans le truc. Et qui est suivi de quelque chose qui devient profondément ennuyeux et qui ne donnera pas lieu derrière, quand ils vont se rencontrer, à une mayonnaise qui sera montée parce qu'elle sera fortement érotique.
Puisqu'en Donc vous fait, êtes contre ces trucs-là, en fait, vous, j'ai l'impression. Ça,
non, je n'ai pas dit que j'étais contre. Je dis simplement qu'il faut savoir, d'abord avec parcimonie, il faut savoir ne pas faire tout par photo, parce que c'est souvent un manque de capacité à mettre des mots. Et encore une fois, une photo, si elle peut être très érotisée, elle peut être très jolie, mais elle peut être brusque et puis inappropriée, parce que justement, on ne tient pas compte de où en est l'autre et ce que l'autre aurait pu souhaiter. Par exemple, un bon soin, une bonne attention et non pas une provocation sur un sujet qui n'était pas d'actualité.
Jimmy qui n'envoie que des photos de fleurs, allez-y Jimmy.
Non, mais on peut peut-être y aller progressivement dans ces cas-là, commencer par des textos, puis les émojis là, que les jeunes aiment bien utiliser, l'aubergine ou la pêche, et puis je ne sais
pas... Je ne vois pas du tout de quoi on parle. Vous savez, les psys ne voient pas du tout de symbole phallique dans quoi que ce soit, ni certainement pas dans les légumes.
Non, mais bon, voilà, d'y aller progressivement avant de montrer son zizi ou son vagin, peut-être, je ne sais pas, les sous-vêtements, je ne sais pas, pour essayer de suggérer et voir comment l'autre répond.
C'est toute la difficulté entre les l'érotisme et la pornographie, en effet. Et je crois que la relation, elle a besoin d'érotisme avant d'en arriver à ce qui sera de fait une image pornographique, la sexualité. Donc, on n'est pas obligé...
Un si petit émoji si... d'aubergine, voilà, comme quand ça, je en dis... passant, c'est plus délicat.
Là, elle a compris que vous vouliez une parmigiane. Je ne sais pas que ça... Il peut y avoir aussi des confusions. Non, mais vous avez raison. C'est-à-dire que le truc, c'est de pouvoir écrire une histoire et de pouvoir faire progresser cette histoire et pas l'arrêter net parce que derrière l'image, une fois que c'est dit, une fois que c'est vu, que voulez-vous envoyer d'autre ? Alors, s'ils ont la capacité à faire l'amour tout de suite, pourquoi pas ? Mais sinon, ils ne peuvent rien envoyer d'autre parce qu'une fois qu'on l'a vu en long, en large et en travers, bah de fait, on a fait le tour de la question et il n'y a plus rien à créer. Et c'est ça qui est dommage puisque du coup, ça tue la relation.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, notre grand dossier du jour sera consacré aux jeunes parents avec notre invité, le pédopsychiatre Michel Lecendreux. Nous verrons les choses à faire ou à ne pas faire pour faire dormir son bébé comme un petit prince, une petite princesse.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.